confiance des investisseurs est au plus bas depuis 6 mois et beaucoup estiment désormais que l'économie allemande pourrait se contracter au premier trimestre. Alors cette semaine, beaucoup de publications de résultats de la part des entreprises, un peu plus de 100 parmi les 500 de l'indice S&P aux États-Unis. Parmi il y a des poids lourds comme Apple, Facebook, Microsoft ou Tesla. Plus que les performances passées, ce sont les prévisions et le discours qui seront extrêmement importants. C'était Céline Pentex, Investir pour RFI.
Merci Céline Pentex pour toutes ces précisions. Donc en direct de la Bourse de Paris, ainsi s'achève le journal. A tout à l'heure, 19h, pour une autre édition.
Radio G. www.radio-g.fr.
Radio G est désormais à l'écoute de l'oreille curieuse. Bienvenue, nous sommes lundi et c'est reparti pour une semaine de chroniques, d'émissions et de sujets consacrés aux découvertes, à la création et aux actualités locales. Un lundi sur deux, vous avez rendez-vous avec un goûter de pensée, c'est le croque-philo avec Émilie qui sera là en deuxième partie d'émission pour un sujet que nous découvrirons ensemble. Avant cela, il sera question de musique grâce à Mehdi qui part chaque semaine à la conquête du son. Salut Mehdi.
Salut Andy, ça va?
Oui. Tu veux nous dire de quoi tu vas nous parler?
Je vais parler d'un artiste qui s'appelle Youssef Days.
Très bien, voilà. Ce sera...
Il a sorti un album.
Dans pas très longtemps, on va presque commencer avec ça. Car juste avant, c'est une sélection podcast Selecta qui se transforme en recommandation pour une pétition. Je vous parlerai quand même de podcast, mais je vous invite à sortir vos clics pour quelque chose d'important. On est ensemble pour les 40 prochaines minutes. J'espère que vous êtes en forme derrière vos postes de radio, confiants et confiantes en l'avenir, comme on l'est nous derrière nos micros. On partage avec vous un proverbe. Attention, il faut saisir l'occasion aux cheveux.
Pas mal.
Pas mal. Je le trouve très joli. Moi, je ne l'avais jamais entendu avant de faire ces heures de recherche pour ouvrir cette émission. Et on va commencer en musique avec un titre de Chica qui s'appelle Crown.
Pencil. I scribble the stanza as my hands are trembling. Grade 7 made heaven out of words. I began to build a world that only I inhabit. I got a habit of rapping about tragic shit. I think I'm just passionate. Trying to steer the way while in the dark. Hope I ain't crashing it. Now my little hobby turned to cash. Now thinking about who I'd be if I listened to doubt. Said I'd never do it. Well, look at me now. Young girl, old dream, old soul, oh dear. Plan B, plan well, good luck, no fear. Just wait and God will tell you when the time's near. But if I never jump, then I die here. Ain't no rock till you pick up speed. They think college is all you need. And I don't blame your brainwashing on you, see. It took me 19 years to finally start to believe. And it's me, listen.
I'ma make it in the rain, I'll shine. All about my money, don't waste my time. Ain't nobody gonna bring me.
Okay, this is
for the kids with depression. The ones whose parental expectations got them stressing. The ones who would rather persevere, but they ass trying to make it, cause they ain't really living in the present. They out here grinding, seeking perfect timing, tuning out the useless voices that discourage rhyming. Get a real job, I don't argue with my destiny. And if my choices don't affect you, why you testing me? And as of late, I've been asking God why he blessing me. I could cry enough tears to fill the Chesapeake. Hold it together, girl, you deserve the world. And if no one else will say it, then I spit it to the mic in the studio when I lay. And I play it when you discouraged. I know chasing the impossible takes some courage. And I can promise at the end of your journey, when it's all said and done, will nothing feel much better than hearing my nigga, you won. Hey,
I'ma make it in the rain, all shine. All about my money, don't waste my time. Ain't nobody gonna bring me down. I'm on the elevator. I'm on to something greater. Ain't nobody gonna take my crown.
Alors habituellement, on débute avec une Selecta podcast, mais qui devient aujourd'hui une recommandation pétition. Si on parle de handicap, tout le monde va spontanément être pour l'accessibilité, le soutien, et dire mais oui, il faut faire quelque chose, il faut aider. Bon alors déjà, on va se rappeler que les handicaps, il en existe de toutes sortes, des moteurs, sensoriels, cognitifs, visibles, invisibles. La plupart sont invisibles d'ailleurs. Et aujourd'hui, c'est là qu'intervient la pétition. Une personne handicapée qui ne peut pas travailler touche l'AAH, l'allocation adulte handicapé, pour lui permettre de subvenir à ses besoins. C'est 902,70 € par mois, ce qui n'est pas énorme. Et si la personne est célibataire et qu'elle ne peut pas travailler, elle touche l'intégralité de cette allocation. Si elle est en couple, ça se complique un petit peu. Aujourd'hui, la loi française calcule le versement de l'AAH sur les revenus du ménage, donc des deux personnes ensemble. Ainsi, si le plafond des revenus du couple dépasse 19 607 €, j'ai fait technique aujourd'hui, c'est-à-dire 1 633 € par mois, la personne handicapée ne reçoit plus son AAH. Et dès le dépassement de ce seuil, elle devient alors dépendante de son conjoint ou sa conjointe et n'apporte plus du tout de revenus mensuels dans le couple. Ça devient assez compliqué parce que ça veut dire si je suis handicapée, que ma conjointe touche une certaine somme d'argent, je peux être perçue comme une charge qui coûte de l'argent par mon amoureux ou mon amoureuse. Je sais pas moi, imaginez qu'on se dise à votre sujet, je suis désolée, en fait j'ai pas les moyens qu'on vive ensemble. Ton handicap il me coûterait trop cher, je peux pas le gérer. Voilà, donc c'est quand même un peu hallucinant. C'est aussi très problématique dans le cadre d'une séparation, parce que très souvent, tant que les personnes vivent sous le même toit, la personne handicapée continue de ne pas recevoir son allocation adulte handicapé. Sauf que pour déménager, il faut pouvoir avoir des ressources pour payer un loyer, etc. etc. Vous voyez un petit peu le cercle vicieux qui peut se dessiner. En plus, devoir demander l'autorisation à la personne qu'on est en train de quitter pour acheter quoi que ce soit, c'est quand même très compliqué, en plus de tout ce qui va être chagrin d'amour qu'on traverse en général tous et toutes. Si on veut rajouter encore une situation qui peut être très complexe et très problématique, eh bien on a celle des violences conjugales, parce que cela peut augmenter l'emprise de la personne violente, puisqu'en fait c'est elle qui a le contrôle de toutes les dépenses. Imagine, en termes d'emprise, je décide de plus payer ton forfait téléphonique. Donc pour garder du lien avec des amis, de la famille, ou même du soutien, ça devient très compliqué. Et cette question-là, en fait, elle n'est pas anecdotique du tout, puisqu'une femme handicapée sur 3 dit avoir subi des violences au sein de son couple, contre 1 sur 5 pour les femmes valides. Bon alors, quelle que soit la façon dont je regarde ce sujet, personnellement, je ne vois pas du tout comment on peut défendre ce calcul tel qu'il est aujourd'hui. Ça, c'est ma position. En termes d'autonomie, de soutien, de choix de société, Je valide pas, perso. Ce qui est très bien, c'est qu'on peut y faire quelque chose de très concret aujourd'hui. Il y a une pétition en ligne sur le site du Sénat Comme elle est sur le site du Sénat, sa particularité, c'est que si elle atteint 100 000 signatures, les sénateurs sont dans l'obligation légale de mettre ce sujet du calcul de l'AAH, allocation adulte handicapé, sur leur table de travail. Et donc, peut-être que ça pourrait évoluer. Okay. Pour le moment, il y a 87 000 et un petit peu plus signatures. La pétition est ouverte jusqu'au 3 mars. Ça vous laisse encore un mois pour signer. Vous tapez pétition au pluriel .sénat.fr. Nous, on va mettre tous les liens en ligne sur la page de l'Oreille Curieuse. C'est très facile à faire. Par contre, il faut se connecter avec ses identifiants des impôts ou de la sécurité sociale, puisque c'est quelque chose de l'État. Mais vraiment, ça prend quelques secondes et en fait, ça peut avoir un vrai impact important. Ça vous changera de toutes les pétitions qui sont très 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 signées, mais qui débouchent parfois nulle part et on est un peu frustré, même si elles sont importantes. Voilà, je compte sur vous parce que cette fois-ci, ce sera quand même plus sympa que de s'indigner tout seul chez soi, parce qu'en fait, ça nous concerne quand même globalement. Collectivement, en termes de société, vous y réfléchissez. Si vous avez besoin de plus d'infos, vous allez en trouver en cherchant le hashtag, par exemple, signé pour notre autonomie, ou tout simplement à la page de l'émission, on vous met plein de ressources. Si vous débarquez, on parle de la pétition pour réformer le calcul de l'allocation adulte handicapé. Et comme d'habitude, ce moment pour débuter l'émission du lundi est une Selecta podcast. Je vous invite à écouter, si vous avez envie de creuser le sujet, l'épisode Féminisme et handicap, des corps indociles. C'est réalisé par Charlotte Bien-Aimée sur Arte Radio, dans un podcast à soi, ou bien l'épisode de Miroir, Miroir, quand le handicap invisibilise la personne, de Jennifer Padjami sur Binge Audio. Voilà pour ce soir. Merci pour votre écoute, merci pour vos futurs clics. Et maintenant, on va découvrir un artiste grâce à la conquête du son de Mehdi.
Et ouais. Bonjour auditrices et auditeurs, c'est Mehdi alias Andrea Maya. Et on part encore une fois à l'aventure dans la conquête du son. Cette fois, on se dirige vers Londres à la rencontre du batteur virtuose Youssef Days, qui avec son trio a sorti son nouvel album le 3 décembre, intitulé « Welcome to the Hills », qui signifie en français « Bienvenue dans les collines ». Avant d'écouter quelques extraits et parler du projet, on va s'intéresser un peu au personnage Youssef Days. Donc celui-ci est né dans le sud-est de Londres. Son père était un bassiste de New York dans les années 70 et ses parents, assez stricts, lui imposaient une pratique intense de la musique. Youssef Days penchera pour la batterie et son frère la basse, et c'est tout jeune qu'ils découvrent tous deux le jazz à travers les vinyles de leur père. C'est quand Youssef Days a eu 10 ans qu'il a commencé à étudier sérieusement le jazz avec un professeur de renommée, Billy Cobham, qui est l'illustre batteur de Miles Davis. Youssef dira d'ailleurs que l'apprentissage avec Billy Cobham sera l'étape la plus marquante de sa progression. Et j'ai envie de dire, tu m'étonnes, c'était quand même le batteur de Miles Davis, un des plus grands jazzmen qu'on connaît. À l'école, beaucoup d'amis de Youssef étaient des rappeurs, et il considère que la musique crad ou underground et le hip-hop ont une grande influence sur sa production. Je mets cette même énergie et différents flows dans mon jeu de batterie. Ce sont les mots de Youssef Days sur son jeu. Ajoutez à cela la collection reggae de son père jamaïcain, l'amour de sa défunte mère pour les Beatles et la country, et son frère Ahmad qui produit des morceaux de la jungle. Youssef dit « Il y avait de la bonne musique dans chaque pièce de la maison ». Et cette diversité de goûts mélangée avec des sons trouvés en voyage, comme par exemple le temps qu'il a passé au Sénégal, est audible dans sa combinaison exaltante de sons. C'est en 2015 que le groupe Youssef Kamal est né, un duo avec son compatriote londonien Kamal Williams. Leur album de 2016, Black Focus, avec ses sensibilités dancefloor et ses breakbeats infusés de funk, deviendra l'un des disques de jazz les plus annoncés de ces derniers temps, mêlant les sons britanniques à ceux de la scène américaine. Certifié argent, l'album a remporté le prix Jazz FM 2017 du meilleur acte de percée. Donc, vous l'aurez compris, Youssef Days est considéré comme une des étoiles montantes du jazz. Et suite à ce début de carrière fulgurant, celui-ci sortira beaucoup de titres et développera son style personnel en étant l'élément principal de son trio appelé The Youssef Days Trio. Donc composé de lui-même à la batterie, de Rocco Paladino à la basse et de Charlie Stacy au clavier. Et tous ces musiciens sont virtuoses dans leur pratique musicale, ce qui donne des titres et des lives réellement spectaculaires, tant dans la technique que dans la composition qui est elle-même très originale. Mais bon, ce ne sont que de belles paroles de ma part et je dois vous prouver ce que j'avance. Donc voici un extrait pour vos oreilles propres. Le titre Nabse Dad Grit sur le nouvel album du trio Youssef Days intitulé Welcome to the Hills. Donc un album jazz sorti le 3 décembre 2020 et c'est un album pas comme les autres par plusieurs aspects. Tout d'abord il y a l'utilisation d'instruments électroniques tels que des synthés, piano électrique, il y a aussi bien sûr un vrai piano et tout ça est combiné à des effets sur la basse et sur le piano électrique et aussi sur la batterie ainsi que des sons d'ambiance qu'ils ont rajoutés. Donc on a vraiment un mélange entre musique acoustique et électronique, témoignant de la volonté pour le groupe d'innover, et donc ce sont des jazzman très influencés par la culture des musiques actuelles. L'album a été enregistré en live, car, je cite les mots de Youssef Days, il semble plus juste de sortir cet enregistrement en direct, car il n'y a pas eu de spectacle cette année. Nous voulons donc donner à l'auditeur la chance de participer à l'expérience live du trio Youssef Days. Donc c'est aussi dans une réponse à la crise du monde du spectacle que l'album a été enregistré en live. Et je trouve que c'est une très belle initiative. Et ça nous permet aussi d'entendre un album avec des parties improvisées. Et donc c'est un vrai album de jazz en soi avec des longs morceaux qui durent entre minimum 5 minutes et 12. J'ai vraiment envie que vous écoutiez l'album et on va vous mettre en joie avec un nouvel extrait tout de suite qui s'appelle Yesterday Princess. Une chose qui m'a marqué dans cet album, c'est qu'il y a beaucoup de solos. Et là, vous allez me dire, normal, c'est un album de jazz, mais franchement, la qualité des solos est juste incroyable. Comme on est axé sur l'univers de Youssef Days, je vais quand même vous faire découvrir le monstre qu'il est à la batterie et aux percussions. Et donc, on reste sur le titre Yesterday Princess, qui est un de mes morceaux préférés, avec un solo à la batterie et aux percus par Youssef Days. vraiment son jeu impressionnant. Et puis ça vient vraiment soutenir les jeux super intéressants et mélodieux du claviériste Charles Stacy et du bassiste Rocco Paladino. Et on peut ressentir clairement qu'ils ont trouvé une parfaite harmonie dans leur groupe. Comme je vous l'ai dit, les morceaux sont longs et ils se développent du début jusqu'à la fin, ce qui fait qu'on a un véritable voyage et beaucoup de surprises. Et ça, c'est vraiment cool d'écouter une musique et de ne vraiment pas savoir à quoi s'attendre en termes de changement de mélodie et de rythmique. Un autre point positif, c'est que l'album a été enregistré en live et qu'on entend le public parler, applaudir et s'ambiancer, avec les musiciens qui interagissent aussi avec le public. Donc c'est un album avec une belle énergie et donc je le conseille à tout le monde. Parce que le jazz peut paraître barbant pour certains, mais là on a une approche très moderne grâce au jeu particulier et explosif de Youssef Deix et de ses compères. Donc les réticents du jazz, sachez que le genre a grandement évolué, avec par exemple cet album qui prouve que le jazz s'assemble maintenant à des genres plus actuels pour créer des fusions étonnantes. Donc je pense que vous l'avez compris, j'ai vraiment adoré cet album. Pour l'instant, c'est mon préféré que j'ai écouté pour 2021. Et puis au-delà de ça, c'est un des meilleurs albums de jazz que j'ai pu écouter. Pour conclure, on peut constater que l'association de musiciens virtuoses et originaux, quand ils arrivent à se comprendre parfaitement, donne un résultat transcendant. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans le jazz et toute musique improvisée. Une musique risquée à cause de sa grande liberté, mais qui peut atteindre des niveaux inconnus. Certains disent qu'on a fait le tour de la musique, mais quand j'écoute ce genre d'album, je ne peux pas m'empêcher de me dire que non, il y a des femmes et des hommes qui arriveront toujours à repousser les limites. J'espère que vous avez passé un bon moment dans cette conquête du son. Le lien de l'album sera disponible dans le podcast et on se quitte avec le morceau Purple Skies Libation de Youssef Deix Trio sur l'album Welcome to the Hills. À bientôt.
ça donne envie d'écouter tout l'album. Tu nous redis le nom de l'artiste, Mehdi?
C'est Youssef Days.
Ok, bah on va aller l'écouter. Merci
un
beaucoup.
Un batteur de génie, ouais, de rien. Merci à
toi. Prochaine conquête du son, lundi prochain.
Ouais.
Bien sûr, vous êtes à l'écoute de Radio G, le 101.5 FM à Angers, et de l'Oreille Curieuse. Et tout de suite, c'est le rendez-vous avec le Croc Philo, la chronique bimensuelle dédiée à la philosophie. Et nous sommes en ligne avec Émilie. Bonsoir, Émilie. Je vous jure, ça va marcher. Les internets. On va parler du goût des autres et de l'altérité, il me semble. Je ne sais pas si tu nous entends, Émilie, nous, pas encore. Mais on a ton très beau générique.
Vous m'entendez ?
Très bien, et on est très
bien. Voilà.
Désormais.
Alors,
oui.
Moi, je vous entendais bien, mon micro était connecté, mais je ne sais pas, il y a des petits craquements aussi de mon côté, alors ça ne doit pas être très fluide.
C'est la joie de 2021, quoi.
Voilà, on continue dans le thème de l'année dernière. Donc, aujourd'hui, dans Croc Philo, effectivement, tu le disais, Annie, le goût des autres ou l'altérité. Alors, en ces temps hein, d'entre-confinement, où le feu de nos relations sociales est sous couvert de restrictions en tout genre, d'évitement, de distanciation, de gestes barrières, où est l'autre dans notre quotidien? Comment le rencontrons-nous? L'absence ou presque absence hein, de contact physique semble devenir la norme de nos rencontres ou retrouvailles entre amis ou en famille, et ces rencontres sont elles-mêmes limitées. L'autre nous manque souvent, quel qu'il soit, mais qu'est-ce qui nous manque quand la présence de l'autre est ainsi réduite? Et l'autre, d'ailleurs, serait-il indissociable de nous? Dans Le goût des autres, le film co-scénarisé par Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri et réalisé par Agnès Jaoui, sorti en 2000, que certains ont peut-être vu ou revu cette semaine, hein, puisqu'il a été diffusé sur France 2 mardi, au décès de Jean-Pierre Bacri, et doit d'ailleurs être encore en replay sur le site de France Télévisions. Dans ce film, donc, Le goût des autres, on assiste à une illustration de la définition du bon goût par Pierre Bourdieu. Le bon goût, c'est le dégoût du goût des autres. C'est ainsi que le sociologue Pierre Bourdieu le définit avec la théorisation d'une forme de déterminisme social. Pour lui, nos classes sociales, nos milieux sociaux, nos désirs, nos amours, nos amitiés, nos goûts et nos couleurs, quels qu'ils soient, sont empreints de préjugés, de contraintes sociales qui nous distinguent à notre insu par reproduction. Ainsi, nous ne sommes pas libres, mais déterminés à reproduire ce que l'on nous transmet socialement. Dans le film « Le goût des autres », on comprend que si nous ne composons pas avec les autres autour de leur singularité, nos relations sont vouées à l'échec, au sens que nous échappons les uns aux autres. Et à partir de là, on ne se comprend pas. Puisque nos goûts, au sens de nos habitus, c'est-à-dire nos manières d'être, nos dispositions d'esprit, diffèrent, ce que nous sommes les uns pour les autres ne fait pas sens. Et nous rejetons les autres hors de notre sphère sociale. Dans le film « Le goût des autres », par exemple, un chef d'entreprise à la culture plutôt technico-commerciale serait mal à l'aise au milieu de discussions intellectuelles d'artistes qui entretiendraient un entre-soi ou ne concéderaient à d'autres échanges que dans le seul intérêt matériel ou financier. Encore, un polytechnicien ne saurait parler que comme un ministre, entendu par là que ses paroles seraient nécessairement condescendantes. Nous ne pourrions être amis, ou du moins nous comprendre, que si nous sommes de la même catégorie socio-professionnelle, comme le chauffeur et le garde du corps du film, joués respectivement par Alain Chabat et Gérard Lanvin, ici d'ailleurs ancien policier, qui ne peut même accepter l'idée que sa maîtresse revende de la drogue. Ou encore, ce que nous trouvons à notre goût en matière de décoration, d'habillement, de physique, et que nous croyons même scellé du côté du bon goût et détesté par d'autres, ne se reconnaissant pas dans le goût des autres. Le goût des autres, en somme, ce serait ce qui nous échappe dans ce que nous vivons socialement, ce serait ce que nous jugeons chez les autres selon nos propres lumières et qui est toujours encombré par ce que nous ne reconnaissons pas comme faisant référence pour nous. Le temps serait-il donc peut-être venu de nous réjouir alors de l'absence de l'autre ? En mettant de distance, quelque part, on a moins à composer avec l'autre.
Mais le goût des autres, ça pourrait aussi être ce besoin que nous avons des autres, d'être avec eux, d'interagir avec eux, même dans la confrontation ?
Alors, oui, c'est là même, d'ailleurs, toute la contradiction de l'altérité. L'autre nous condamne à ne pas être libre, car il est partout et il est différent de moi, mais il est aussi comme moi. Et sans lui, je peine à me reconnaître comme un être doué de goût, d'idées et même de sentiments qui m'appartiennent. Avec nos distanciations sociales actuelles, nos espaces sociaux virtualisés, nos temps moins partagés, on est sans doute moins confronté au goût douteux, hein, forcément douteux pour nous, des uns et des autres, et on pourrait trouver cela reposant. Mais sans compter le fait que nous vivons une forme d'isolement social, on est isolé des autres, mais cet isolement contient aussi nos relations au sein de nos propres sphères sociales, avec nos propres amis, nos propres voisins, nos propres familles. Et c'est la même l'essence de notre rapport à l'autre qui est interrogée, de façon radicale, plus seulement à travers nos divergences sociales, nos ressemblances. C'est la notion même et universelle d'altérité qui contient à la fois l'idée de conscience de l'autre et de soi qui est interpellée. Du goût des autres, nous retenons ici le caractère, la notion même d'altérité. L'autre est un alter ego, c'est l'autre que moi, c'est l'autre qui est comme moi mais qui pourtant n'est pas moi. Et oser la rencontre avec l'autre suppose aussi de me risquer aux frontières de moi-même, d'accepter de ne pas tout à fait me reconnaître dans l'autre pour mieux le rencontrer. Rencontrer l'autre, ce serait laisser justement la réalité m'échapper un peu. Mais alors, pourquoi est-ce si difficile de faire se rencontrer nos similitudes, nos différences, sans jugement de valeur ? D'échapper à l'ethnocentrisme qui vient toujours flatter nos propres valeurs et opinions tout en niant la pertinence de celles des autres. Comme en voyage, l'autre serait celui qui, teinté d'exotisme, à la fois m'échappe et me fascine. Parce que sa réalité est ailleurs que la mienne, l'autre m'invite à ouvrir mon regard sur le monde, monde qui devient alors le mien et celui de l'autre à la fois. Cette vision universaliste, on la doit notamment dans l'histoire des idées et du questionnement sur l'altérité à l'humanisme Montaigne au XVIe siècle. L'écrivain, philosophe, dans ses essais parus en 1580, nous invite à porter un regard nouveau sur l'autre grâce aux découvertes des explorateurs. Notre essayiste a lu des récits, des témoignages de personnes ayant été en expédition en Amérique, notamment André Thévé dans « Les singularités de la France antarctique », ouvrage paru en 1557, et il a lu également Jean de Léry, « Voyage fait en la terre du Brésil », paru en 1578. Montaigne a en outre rencontré quelques Indiens à Rouen et engagé comme secrétaire un homme ayant séjourné en Amérique. Et dès la première édition des essais, Montaigne a consacré deux chapitres, des cannibales et des coches, à la découverte du Nouveau Monde. Dans un passage particulièrement célèbre du troisième livre des essais, il critique le colonialisme pour mieux dresser les éloges des Indiens d'Amérique. Plus généralement dans son ouvrage, il vise à questionner nos préjugés sur les autres cultures et nous invite à regarder nos propres coutumes d'un œil critique. Bien loin encore de la célèbre phrase de l'ethnologue Lévi-Strauss dans « Race et histoire », le barbare, c'est d'abord celui qui croit à la barbarie, Montaigne nous invite déjà à ne pas ignorer les contradictions et les usages, notamment politiques, de notre propre culture en affirmant qu'ils peuvent être jugés et discutés. Il porte une réflexion profonde, philosophique, sur le pouvoir de l'asservissement, les doutes sur la civilisation, un questionnement sur la nature. Il défend, en quelque sorte, le relativisme culturel. Pour lui, notre aveuglement, c'est notre vue étroite, notre autosatisfaction qui nous empêche d'aller à la découverte de l'autre et d'apprendre de lui. Alors bien entendu, rétrospectivement, hein, on peut dire, reconnaître que aujourd'hui, le propos de Montaigne n'est lui-même pas dénué d'ethnocentrisme, dans la mesure où il ne voit les hommes du Nouveau Monde qu'à travers le prisme de la civilisation occidentale, même s'il en fait son exact contraire, son inverse. Et depuis la Renaissance, alors comment la philosophie nous invite à penser l'autre et notre relation à lui ? On peut citer Emmanuel Lévinas, dont on a déjà parlé ici, qui fait du visage de l'autre le fondement de tout commandement moral contre la violence. Parce que pour les yeux de l'autre, pour lui, pour Lévinas, les yeux de l'autre, le cœur même de son visage, les yeux, le regard de l'autre qui se plante dans les miens, c'est un accès direct à toute la fragilité de l'humanité qui intimement m'ordonne de ne pas nuire à l'autre. Chez Sartre, en revanche, l'enfer, c'est les nôtres. Il fera dire à son personnage Garcin, dans sa pièce de théâtre Huit Clos, hein, publiée en 43, représentée pour la première fois en 44, à la fin du dialogue entre les personnages, à la fin de la pièce, Garcin viendra à dire que l'enfer, c'est les autres. Alors, peut-être très rapidement, un tout petit pitch. Huit Clos, c'est trois personnages, Garcin, Inès, Estelle, qui ne se connaissent pas, qui sont morts, tous les trois, et qui se retrouvent dans une forme d'au-delà, qui serait l'enfer, et enfermés dans une même pièce. Ils ne se connaissent pas, ils viennent de milieux très différents, ils ne partagent ni les mêmes convictions, ni les mêmes croyances, ni les mêmes goûts. Et Sartre va, dans Huit Clos, montrer que l'autre est partout, même quand on ne le voit pas, même quand on ne le connaît pas d'avance, parce que ma conscience se saisit de son existence et je ne peux lui échapper. L'existence même de l'autre, même si je ne le vois pas, conditionne toutes mes actions. Donc si plus je cherche à le définir, plus l'autre semble se dérober pour mieux me renvoyer à moi-même, c'est peut-être qu'au fond, l'autre, plus qu'un étranger, habite déjà en chacun de nous. À quoi bon ignorer nos propres incertitudes et questionnements ? Si la seule certitude dont je disposais, c'était que l'autre est l'inconnu en moi, que l'autre est la promesse de toute création, de toute poésie possible, car il est et demeure ce que j'ignore. Dans nos vies aujourd'hui, quand nos contraintes se renforcent et se généralisent, on pourrait croire que nous nous ressemblons davantage, que dans les heures que nous vivons collectivement, actuellement, flotterait un quelque chose de « il en est de même pour tous », où nous vivons tous la même chose, où nous ressentons tous la même chose. Comme si l'autre était celui qui est exclusivement comme nous, comme si nos sentiments étaient mieux partagés que jamais et que nous pourrions nous comprendre mieux aujourd'hui qu'hier. Qu'en modifiant actuellement, par la force des choses, un peu nos habitus, nos manières d'être et de penser, nous serions capables de saisir par une forme de conscience commune les événements que nous traversons. Or, force est de constater que socialement, ce n'est pas vrai. Nos conditions de vie ne se valent pas. Annie, tu parlais d'handicap hein, au début de l'émission. Clairement, nos conditions de vie sociales, nos conditions de vie pratiques ne se valent pas, nous n'avons pas tous autant à perdre, car si nous perdons tous une part de ce qui nous est essentiel, nous n'entendons pas cet essentiel de la même façon, nous ne le plaçons pas au même endroit. Et pour certains, la perte de l'essentiel a un goût de survie qu'il serait inconvenant de juger, quoi qu'il représente pour nous de différent. Pourtant, nous jugeons souvent. Nous nous désaccordons encore un peu plus, tandis que se creusent et se délimitent nos environnements sociaux. Nous nous voyons de moins en moins, hein, actuellement, au sens propre du terme, puis nos éloignements nous invisibilisent encore davantage, comme si nous perdions conscience de cette dualité de l'altérité qui nous constitue. Et nous oublions sans doute ainsi que, sans l'autre, nous perdons aussi nos propres repères, que c'est bien la perspective d'être soi que nous perdons, par une forme de frottement au réel qui manque à nos envies, à nos projets. Et si cultiver le goût des autres, au sens cette fois de l'inclination vers les autres, c'était continuer à inventer des façons d'être en relation avec eux, si c'était juste du lien possible, parfois et surtout hors de notre zone de confort, de notre sphère sociale, même bousculée en ce moment, justement. Alors, pas facile quand ça se passe exclusivement sur les réseaux sociaux, mais si ces rencontres nous faisaient au moins sortir de l'illusion de la nécessaire et cordiale entente au sein de nos sphères sociales familières, pour simplement nous montrer que nous pouvons encore nous projeter un peu hors de nous et continuer à découvrir les goûts qui sont dans la nature. Pour la vie sociale un peu moins grise, un peu plus curieuse, moins immobile peut-être, en étant un peu plus à l'écoute.
Émilie, nous ne t'entendons plus, mais je sais que c'est la fin de ta chronique et je t'en remercie.
C'est la fin.
je ne savais pas si on allait réentendre ta voix.
Non, alors après, je peux vous dire quand même que le prochain rendez-vous, je crois que c'est le 8, hein, si je ne me trompe pas.
Ce sera dans 2 semaines, ouais, le 8, tout à fait.
Nous parlerons encore des autres, mais d'une autre façon, de nos relations, précisément d'amour, d'amitié, dans leurs ressemblances et leurs dissemblances.
Très bien. Moi, l'amour, je suis toujours pour en parler.
L'amitié. Alors, on en parlera.
Merci beaucoup, Émilie. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup à vous toutes et à vous tous d'avoir été à l'écoute. Vous pouvez la retrouver en ligne et en podcast à la page de l'Oreille Curieuse sur le site de Radio G, comme vous avez l'habitude d'aller chaque soir, chaque matin, je ne sais pas quand vous nous écoutez. On se retrouve demain à 18h10. Très certainement, on va parler d'art avec Améliane Jouve, si tout va bien, qui est une artiste en résidence en ce moment à Angers. Passez une très bonne soirée. Écrivez-nous, contactez-nous sur les réseaux sociaux si vous avez envie de nous dire un petit mot. Et sinon, on se retrouve demain à l'antenne. Vous retrouvez la programmation musicale de Radio G pour quelques minutes. Et puis à 19h, ce sera Ça dégouline dans le cornet, l'équipe qui va vous parler de rock dans tous ses états. À demain. Show us how it's done. We got to catch on a bridge. Stay from the house to the floor. If you're gonna get one, get on the floor. Now we gotta go get put some more. All the way stays get out the door. First I'm ready with a pack of tea. Or if you know what I mean. Now this is just about a piece of food. First I'm gonna get on the floor.
www.radio-g.fr.